La Révolution de l'amour, par Luc Ferry. Réalisation Véronique Villa. Prise de son Pierrick Charles. Aujourd'hui, la question du sens de la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'amour, ou plus exactement, je vais vous parler de ce que j'ai appelé dans mes derniers livres la révolution de l'amour, c'est-à-dire le passage du mariage arrangé, ce qu'on appelait le mariage de raison. Par exemple, on voit dans les pièces de Molière les enfants qui se révoltent contre les parents qui veulent les marier de force avec un vieux barbon comme Harpagon dans l'Avare. Eh bien, je vais vous parler de cette révolution de l'amour, c'est-à-dire du passage du mariage arrangé par les parents ou même par les villages, au mariage choisi par les jeunes gens, choisi par amour et pour l'épanouissement de l'amour dans la vie privée, dans la sphère de la famille. Et l'idée que j'ai, et que je voudrais aujourd'hui essayer de vous faire partager, en tout cas je vais vous la raconter, et surtout la prochaine fois encore plus, je voudrais vous faire partager l'idée que l'amour n'est pas une passion parmi d'autres, ça n'est pas un sentiment à côté des autres comme la colère ou l'indignation ou la jalousie, mais l'amour est aujourd'hui devenu, à cause de cette révolution, ou grâce à cette révolution de l'amour, grâce à cette naissance de la famille moderne, eh bien l'amour est devenu un nouveau principe de sens dans la vie des individus. Et je voudrais vous montrer comment ce nouveau principe de sens qu'est l'amour sous ses différentes formes requiert à mes yeux une nouvelle approche philosophique, peut-être même une nouvelle philosophie. Et pour mettre les choses en place, je vais vous raconter une très belle histoire. Je vais vous raconter peut-être l'une des premières histoires d'amour, l'histoire d'Ulysse, telle que Homère nous l'a fait partager dans un texte très ancien, dans l'Odyssée, qui a été écrite au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est le premier texte écrit en grec. Et comme je sais que parmi vous, il y en a qui certainement connaissent déjà très bien l'histoire d'Ulysse, qui connaissent très bien l'Odyssée d'Homère, et puis il y en a d'autres qui ne la connaissent pas du tout, cette histoire, qui ne l'ont peut-être jamais lue. Et après tout, on a bien le droit de ne jamais avoir lu Homère. Eh bien, je vais vous la raconter, cette histoire, comme si vous ne la connaissiez pas du tout, pour essayer justement d'en dégager la signification philosophique. Comme ça, tout le monde pourra partager cette histoire, qu'on la connaisse déjà très bien ou qu'on ne la connaisse pas du tout. Et je voudrais vous montrer comment, avant que l'amour devienne, comme je le pense, un nouveau principe de sens dans nos vies, ce qui donne du sens à nos vies, eh bien, dans l'histoire de la pensée, notamment dans l'histoire de la pensée occidentale, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu d'autres principes de sens, et notamment avec cette première histoire philosophique et l'histoire d'Ulysse telle que nous l'a raconté Homère, eh bien on va voir que c'est la matrice de la philosophie, c'est la matrice de la question philosophique essentielle qui est la question du sens de la vie, et que Homère n'y répond pas, même s'il y est parfois question d'amour, exclusivement par cette problématique contemporaine que j'évoque, qui est la problématique de la révolution de l'amour. Mais trêve de préalable, je voudrais rentrer tout de suite dans le vif du sujet et faire une distinction qui me servira de fil conducteur dans toutes ces émissions, et je voudrais que cette distinction, vous la compreniez bien, parce qu'elle est à mes yeux absolument cardinale. Et avant de vous raconter l'histoire d'Ulysse, il faut absolument l'avoir présente à l'esprit pour comprendre ce qui va suivre. C'est la distinction entre deux grandes sphères de valeurs, entre deux types de valeurs qui structurent nos existences. Vous allez voir, c'est une distinction qui est tout à fait simple, qui est très compréhensible, et je crois qu'elle est, encore une fois, cardinale, cruciale, vraiment essentielle pour comprendre la suite de cette interrogation sur le sens de la vie et sur l'amour comme facteur nouveau de sens dans nos vies. Distinction, je disais, entre deux types de valeurs, deux sphères de valeurs qui structurent nos existences depuis toujours probablement. D'un côté, ce qu'on pourrait appeler les valeurs morales, de l'autre côté, ce que j'appellerais les valeurs spirituelles. Spirituelles au sens de la vie de l'esprit, tout simplement. N'y mettez pas de connotation nécessairement religieuse. La spiritualité, c'est d'abord la vie de l'esprit. Et je m'explique tout de suite sur cette distinction. Qu'est-ce que c'est que la morale? Si je faisais un cours à l'université, je pourrais vous en parler pendant une année entière. Mais on peut dire aussi les choses très simplement. La morale, quelle que soit la vision morale du monde qu'on choisisse comme référence, que ce soit la morale de Platon ou d'Aristote, que ce soit la morale de Jésus, que ce soit la morale de Bouddha ou encore nos grandes morales républicaines, la morale, elle comporte toujours deux traits fondamentaux. Il y a toujours deux éléments fondamentaux dans toutes les grandes visions morales du monde. Il y a d'un côté le respect d'autrui, nous nous conduisons moralement avec nos voisins, avec nos amis, avec nos parents quand nous les respectons. Et puis il y a un élément supplémentaire, un deuxième élément, nous nous comportons moralement quand on ajoute au respect de l'autre quelque chose comme la bonté, la générosité, la bienveillance, la gentillesse, on pourrait dire, comme dans les familles. Et donc nous nous comportons moralement avec les autres quand nous les respectons et quand nous sommes, parlons comme les enfants, gentils avec eux, bons avec eux, bienveillants, si possible bienfaisants, c'est encore mieux. Voilà les deux traits fondamentaux de la morale. Je ne connais pas de morale qui recommande la violence, le mensonge, l'hypocrisie, le manque de respect. Il y a toujours ces deux éléments, quelle que soit la morale de référence, le respect d'autrui et puis la bonté, la bienveillance, la gentillesse. On pourrait dire Kouchner et sœur Emmanuel. Kouchner, c'est les droits de l'homme, c'est le respect des autres. En tout cas, Kouchner, avant qu'il entre en politique, si on veut éviter les référence politicienne. Et puis sœur Emmanuel, elle ajoutait à ce respect d'autrui, elle ajoutait aux droits de l'homme, eh bien, ce souci de la bienveillance, ce souci de la bonté, ce souci de la gentillesse et du souci de l'autre. Eh bien, imaginez la petite fable suivante, et ça vous permettra de comprendre immédiatement la différence entre les valeurs morales et ce que j'appellerais dans ces émissions les valeurs spirituelles ou la spiritualité. Imaginez qu'on ait une baguette magique qui nous permettrait de faire en sorte que D'un seul coup, sur la planète aujourd'hui, tous les êtres humains se conduisent moralement les uns vis-à-vis des autres. Imaginons que nous soyons parfaitement respectueux des droits de l'homme, que nous soyons parfaitement respectueux d'autrui, et puis en plus on ajouterait la bonté, la gentillesse, la bienveillance à l'égard des autres, le souci de l'autre. Eh bien évidemment, si on avait cette baguette magique, la situation du monde serait totalement bouleversée. Il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de prison, il n'y aurait plus besoin d'armée, probablement plus de système judiciaire, vraisemblablement il n'y aurait plus non plus de très grandes inégalités économiques, il n'y aurait plus de viols, il n'y aurait plus de vols, plus de massacres, plus de génocides, la face de l'univers en serait bien évidemment totalement changée. Et ça, c'est la question morale, c'est la question de la pacification des relations humaines. Eh bien, même si nous avions cette baguette magique, même si la morale la plus sublime du monde était appliquée de la manière la plus parfaite, la plus sublime elle aussi qu'on puisse imaginer, eh bien, ça ne changerait rien à un certain nombre de questions fondamentales dans nos existences que je regroupe sous la rubrique « spiritualité, vie de l'esprit ». Par exemple, même si vous étiez très gentil avec les autres et très respectueux d'autrui, ça ne vous empêcherait pas de vieillir, de prendre des cheveux blancs ou de les perdre, de courir moins vite. La question des âges de la vie, la question de la vieillesse, la question de savoir ce qu'on fait en fonction de l'âge qu'on a, eh bien, ça n'est pas une question morale. Encore une fois, vous pouvez être très gentil, vous vieillirez quand même. La question du deuil de l'être aimé, et plus généralement la question de la mort, n'est pas non plus une question morale. Là aussi, pour dire les choses très simplement, vous pouvez être très gentil et très respectueux des autres, vous mourrez quand même. La question de la mort n'est pas une question morale. Elle est évidemment très importante dans nos vies. La question du deuil de l'être aimé est une question très importante. Et bien là, encore, même si la morale la plus sublime du monde était appliquée de la manière la plus parfaite qui soit, vous pouvez avoir un soir un coup de téléphone de la gendarmerie qui vous annonce que un de vos enfants a eu un accident de la route, ça n'a rien à voir avec la morale. Et pourtant, c'est plein de valeurs, cette question-là, évidemment. Et ça vous préoccupe, ça nous préoccupe, évidemment, beaucoup plus que, la plupart du temps, les grandes questions morales. Et puis, continuons encore. Je parlais de la question de la vieillesse, la question des âges de la vie, je parlais de la question du deuil de l'être aimé, la question de la mort. Allons plus loin, la question de l'amour. Justement, celle qui va nous occuper dans ces émissions. Là aussi, ça n'est pas une question essentiellement morale, même s'il peut rentrer un peu de morale dans les relations amoureuses. Ce n'est pas l'essentiel de la relation amoureuse. Toute l'histoire de la littérature moderne, du roman, depuis ce très beau livre qu'est La princesse de Clèves, jusqu'à Un amour de Swann, de Proust, en passant par exemple par le grand livre amoureux de Victor Hugo, Les travailleurs de la mer, eh bien, toute l'histoire de la littérature moderne raconte la vie amoureuse de gens épatants moralement, de gens qui sont des êtres moraux et qui, malheureusement pour eux, c'est aussi, j'aurais pu citer Andromaque, eh bien, sont amoureux de quelqu'un qui ne les aime pas. Vous pouvez être un être parfait sur le plan moral, vous pouvez être un type bien ou une femme bien et être malheureux ou malheureuse en amour. La logique de l'amour n'est pas essentiellement une logique morale. Et puis allons encore plus loin. Je parlais des âges de la vie, je parlais de la mort, je parlais de l'amour. Parlons aussi d'un sujet dont on ne parle pas suffisamment, mais qui est très important dans nos vies, la question de la banalité de la vie quotidienne, la question de l'ennui tout simplement, la question du métro, boulot, dodo. Là aussi, vous pouvez être quelqu'un de très bien moralement, respecter les autres et être gentil avec eux et vous ennuyer à mourir dans la vie. Avoir tous les soirs la même femme dans le même lit, le même homme dans le même lit, avoir tout le temps au bureau les mêmes nez au milieu des mêmes figures, ça peut être fastidieux, ça peut être ennuyeux. On peut rêver comme Rimbaud que la vraie vie est ailleurs. On peut rêver d'une autre vie, d'un tour du monde en bateau ou que sais-je encore, ce que vous voudrez imaginer. Chacun ses rêves. Mais là encore, la question de la banalité de la vie quotidienne n'est pas une question essentiellement morale. Et donc, toutes ces grandes questions, elle touche en fait à la problématique, je voudrais vous montrer pourquoi je dis la problématique essentielle de la philosophie. Je crois que la problématique centrale de la philosophie, et puis je vais vous le montrer au cours de ces émissions, je ne vais pas vous faire un cours abstrait, mais je le montrerai par des exemples. La question centrale de la philosophie, c'est la question: qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels? Qu'est-ce qu'une vie bonne pour ceux qui vont mourir? Et cette question-là, qui est la question du sens de la vie, ou en tout cas du sens dans nos vies, eh bien cette question-là n'est pas essentiellement une question morale. Elle touche à ces grandes questions existentielles que je viens d'évoquer et que je regroupe sous la rubrique « vie de l'esprit » ou « spiritualité ». Et au fond, dans l'histoire de la pensée, pas simplement occidentale, dans l'histoire de la pensée mondiale, il y a deux grands types de réponses apportées à cette question de la vie bonne. Pour les mortels, il y a des réponses religieuses, des doctrines du salut, comme on les appelle. Les réponses religieuses, elles définissent une vie bonne pour les mortels en passant par Dieu et en passant par la foi. C'est grâce à Dieu et grâce à la foi en Dieu qu'on est sauvé et qu'on trouve la vie bienheureuse, le souverain bien. Et puis vous avez des réponses qui sont des réponses, je dirais, laïques, qui ne passent ni par Dieu ni par la foi, mais qui en restent à ce petit être humain que nous sommes, qui en restent à la vie des humains mortels et qui nous disent qu'on peut trouver la vie bonne en restant dans le monde humain et en ne passant pas par la foi, mais simplement par la lucidité de la raison. Et ça s'appelle la philosophie. La philosophie n'est rien d'autre. Dans toute son histoire, à son plus haut niveau, toutes les grandes philosophies sont des tentatives de répondre à la question « qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» mais sans passer par Dieu et sans passer par la foi, avec la lucidité de la raison, avec les moyens du bord. Quand vous ouvrez par exemple l'éthique de Spinoza, eh bien Spinoza nous promet, il nous prend quasiment par la main, en nous disant, voilà, si vous suivez les voies de la raison, eh bien, vous trouverez la vie bonne, vous trouverez le souverain bien, simplement par les voies de la raison, sans passer par Dieu, sans passer par la foi. Et si je veux aujourd'hui vous raconter l'histoire d'Ulysse, cette merveilleuse histoire, et je vais vous la raconter à ma façon, mais quand je dis à ma façon, ça ne veut pas dire que je vais vous raconter quelque chose d'autre que cette histoire, je crois que c'est sa vérité, eh bien, c'est parce que cette histoire d'Ulysse, elle est la première grande réponse laïque à la question du sens de la vie. La première grande réponse philosophique, c'est la matrice de la philosophie, c'est la première grande réponse donc non religieuse à la question « qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» Et vous allez voir comment eh bien, Homère, à travers les aventures d'Ulysse, répond de manière extrêmement concrète, de manière très précise à cette question « qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels » c'est-à-dire à la question philosophique centrale de la spiritualité sans Dieu, si je puis dire, de la spiritualité laïque, de la spiritualité non religieuse, et au-delà de la morale, et si je puis dire, à côté de la religion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Ulysse? Et si je vous la raconte, c'est justement pour vous montrer comment, à partir de cette première grande réponse à la question « qu'est-ce qu'une vie bonne ?», à partir de cette première grande réponse à la question donc du sens de la vie, de ce qui fait sens dans nos vies, ce qui donne du sens à nos vies, eh bien, on va avoir plusieurs autres réponses dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire de la philosophie, jusqu'à cette dernière réponse, qui est la réponse par l'amour, à partir de cette révolution de l'amour que j'évoquerai dans une prochaine émission. Donc, racontons déjà, et après on en tirera les conséquences, racontons déjà l'histoire d'Ulysse et voyons comment, à travers cette histoire, Homère élabore de façon absolument géniale une réponse magnifique à la question « qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?», à la question du sens de la vie, et comment cette réponse, en effet, est tout à fait concrète. De quoi s'agit-il ? L'histoire d'Ulysse, elle commence par un poème que Homère évoque et que nous avons malheureusement aujourd'hui perdu, qui s'appelait « Les chants cypriens » et qui racontait une histoire magnifique que les parents devaient raconter dans les familles de Grèce, comme on raconte aujourd'hui à nos enfants « La Belle au bois dormant » ou « Le chat botté » ou « Cendrillon ». C'était une espèce de conte de fées, c'était un grand mythe grec. C'était l'histoire de la pomme de Discorde. Cette histoire, encore une fois, Homère l'évoque comme l'origine de la guerre de Troie, cette guerre terrible à laquelle Ulysse va prendre part. Et je vais vous raconter très brièvement cette histoire de la pomme de Discorde parce que vous allez voir que la trajectoire d'Ulysse, l'itinéraire d'Ulysse, Ulysse qui est donc un roi grec, c'est un héros grec, il est le roi d'une petite cité qui s'appelle Ithaque, il est marié avec une femme ravissante et intelligente qui s'appelle Pénélope, il a un petit garçon qui s'appelle Télémaque, Télémaque en grec c'est celui qui combat de loin avec un arc et des flèches. Eh bien, l'histoire d'Ulysse, c'est l'histoire de quelqu'un qui va aller de cette horreur qu'est la guerre de Troie, cette guerre qui est terrifiante, qui est d'une cruauté absolue. On ne peut pas raconter à nos enfants, quand ils sont petits, les supplices qu'évoque cette histoire de la guerre de Troie. Et donc Ulysse est quelqu'un qui va aller de l'horreur de la guerre, donc de la guerre à la paix. Il va chercher la paix, retrouver sa ville, retrouver la paix à Ithaque et dans les bras de sa femme Pénélope. C'est quelqu'un qui va donc aller du chaos initial de la guerre à l'harmonie retrouvé à Ithaque, dans les bras de sa femme. C'est quelqu'un qui va aller de l'exil, loin de chez lui, ce qui pour les Grecs est une horreur, on verra pourquoi, au chez-soi. Il va aller faire cette guerre loin de chez lui, loin d'Ithaque, et puis il va revenir chez lui. Et donc c'est la trajectoire de quelqu'un qui va de la vie mauvaise, si je puis dire, à la vie bonne. C'est une quête qui va durer 20 ans. Ulysse va être pendant 10 ans en guerre, et puis il va retrouver après un voyage, lui aussi, qui va durer 10 ans, l'harmonie, la paix et l'amour, parce qu'il va aussi aller de la haine à l'amour, donc du chaos à l'harmonie, de la guerre à la paix, de l'exil au chez-soi. Et c'est donc une histoire philosophique, c'est une histoire qui tourne autour de la quête de la vie bonne, qui tourne autour de la quête du sens. On part de l'horreur et on va vers la vie bonne. Et donc tout commence par cette fameuse affaire de la pomme de Discorde. En français courant, je pense que chacun sait ce que c'est qu'une pomme de Discorde, c'est un motif de dispute, tout simplement. Eh bien, dans la mythologie grecque, dans ces chants cypriens, la pomme de Discorde, elle mettait en scène une histoire qui se passe à l'occasion d'un mariage, c'est-à-dire une fête de l'amour et de l'harmonie en principe. Il s'agit de marier une divinité qui s'appelle Thétis avec un homme qui est mortel, qui s'appelle Pélée. Et Thétis et Pélée vont être connus dans la mythologie grecque parce que plus tard, on apprendra qu'ils sont les parents d'Achille. Achille qui va être un des plus grands héros grecs, un des plus grands soldats, un des plus vaillants de la guerre de Troie. Et donc Thétis et Pélée se marient, et comme Thétis est une divinité importante, eh bien c'est Zeus, le dieu des dieux, le roi des dieux, celui qui règne sur l'Olympe. L'Olympe, c'est la montagne où habitent les principaux dieux grecs. Eh bien, comme Thétis est une divinité importante, c'est Zeus lui-même qui a organisé le mariage. Il a lancé, comme on dit, les invitations, et il a, entre guillemets, je dis entre guillemets parce qu'il l'a fait en vérité exprès, il a oublié d'inviter une déesse qu'on n'a jamais envie d'inviter le jour d'un mariage. Cette déesse, elle s'appelle Eris, c'est la déesse de la discorde. Et évidemment, le mariage étant une fête de l'harmonie et de l'amour, eh bien Zeus n'a pas voulu inviter Eris. Très probablement, on pense aujourd'hui que les Grecs, quand on parlait d'Eris, entendaient, même dans le mot, quelque chose de très proche d'Eros. Eris, c'est le revers d'Eros, c'est le revers de l'amour. On ne se dispute jamais aussi bien, aussi vite et aussi fort qu'avec les gens qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas, qui vous sont indifférents. En général, on les laisse de côté, on ne se dispute pas avec eux. Eh bien, Eris, c'est le revers de la médaille de l'amour. Eris, c'est la discorde. Et donc, Eris, vexé de ne pas être invité au mariage de Thétis et de Pélée, fête magnifique sur l'Olympe, Iris s'invite elle-même. On retrouvera un peu la même chose dans un conte de fées comme La Belle au bois dormant, où la méchante fée Carabosse n'est pas invitée, elle s'invite elle-même, bien décidée à faire du mal. Et donc Iris s'invite elle-même dans ce mariage de Tétis et de Pélée, bien décidée à faire son travail, c'est-à-dire à jeter la discorde. Et que fait-elle pour semer la discorde, semer le chaos dans cette fête de l'harmonie, semer la haine et la dispute dans cette fête de l'amour? Eh bien, Iris pose sur la table autour de laquelle les jeunes gens sont en train de faire la noce, comme on dit, elle pose une pomme en or magnifique, une pomme qui vient d'un pommier magique, un pommier qui est gardé par un titan qui s'appelle Atlas, dans un jardin lui-même magique, qui est le jardin des Hespérides. Mais je laisse ça de côté, je l'indique simplement parce que les mythes grecs sont magnifiques, ils sont pleins de ramifications. Elle pose en tout cas sur la table une magnifique pomme en or, une magnifique pomme en or qui est immédiatement un objet de désir pour toutes les femmes qui sont autour de la table. C'est un bijou magnifique et sur cette pomme figure une inscription qui est parfaitement lisible. On peut lire, tout le monde peut lire autour de la table que sur la pomme est marquée « Pour la plus belle, à la plus belle ». Et toutes les femmes s'écrient d'une seule voix « C'est donc pour moi !» Et elles commencent à se disputer. Elles se disputent la pomme de discorde, la pomme d'Eris. Eris est donc ravie, elle a fait son travail, elle a semé la dispute. Et trois femmes restent en lice. Trois femmes, toutes les trois magnifiques, sublimes, trois déesses merveilleuses. Et ces trois déesses, ces trois divinités, sont toutes les trois très chères au cœur de Zeus. Et elles se tournent vers leur chef, vers le roi des dieux, le dieu des dieux, vers Zeus, en lui demandant de trancher la dispute, de dire à laquelle de ces trois femmes doit revenir la pomme de discorde, laquelle est la plus belle. Et donc ces trois femmes sont Héra. Héra, c'est Junon en latin, c'est la femme de Zeus, c'est l'impératrice. Il y a Athéna, Athéna c'est Minerve en latin, c'est la fille préférée de Zeus. Et puis il y a sa tante, Aphrodite, Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté. Et les trois femmes demandent à Zeus de trancher la dispute. Zeus n'est pas fou, il sait que s'il doit choisir entre sa fille préférée, sa femme et sa tante, bien qu'immortelle, il est mort. Et donc il se précipite dans les montagnes pour aller chercher un jeune ingénu qui va trancher la dispute. Il le ramène par la peau du cou. C'est un jeune homme ravissant. On va découvrir plus tard que ce jeune homme, qu'on prend pour un berger au début, n'est pas du tout un berger anodin. En vérité, c'est un prince troyen. Il s'appelle Paris. C'est le fils de Priam. Priam est le roi de Troie. Et on va voir que toute cette affaire est à l'origine de la guerre de Troie. Et donc, pour l'instant, Zeus ramène ce jeune berger, Paris, et lui dit « Tu vas me rendre service, tu vas dire à laquelle des trois femmes doit revenir la pomme d'Eris, la pomme de discorde. » Et chacune de ces trois déesses, encore une fois, toutes les trois sublimes, comme toutes les déesses grecques, va proposer à ce jeune homme ce qu'elle a de plus sublime en magasin pour le séduire. Héra, c'est l'impératrice, elle dit à Paris « Si tu me donnes la pomme, je te donnerai un empire. » Athéna, c'est la déesse de la guerre et de l'intelligence. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si c'est une femme qui incarne dans la mythologie grecque la guerre et l'intelligence. Eh bien, Athéna dit à Paris, si tu me donnes la pomme, si tu déclares que je suis la plus belle, eh bien, je te permettrai de gagner toutes les guerres. Ce qui est évidemment très important dans le monde grec. Et puis, Aphrodite, Vénus, déesse de l'amour et de la beauté, très sûre d'elle, arrive à son tour et dit à ce jeune homme, « Mais si tu me donnes la pomme, si tu me déclares la plus belle, moi, je te permettrai de mettre dans ton lit la femme la plus belle du monde. » Qui est la femme la plus belle du monde ? Alors évidemment, Paris, comme vous et moi, messieurs, Paris choisit Aphrodite, il laisse de côté Héra et Athéna, il choisit la promesse de mettre dans son lit la femme la plus belle du monde. Et qui est la femme la plus belle du monde ? Eh bien, c'est la belle Hélène, bien sûr. Et la belle Hélène, hélas, si je puis dire, c'est une princesse grecque, c'est même une reine grecque. C'est la femme de Ménélas. Ménélas, c'est le roi de Sparte. Sparte, c'est les Spartoïs en grec, c'est ceux qui ont été semés à partir des dents d'un dragon et qui poussent toute armée, ce sont des guerriers terribles, ce sont les Spartiates. Et donc c'est le roi des guerriers que Ménélas et sa femme, la belle Hélène, est donc la femme du plus guerrier, si je puis dire, des rois grecs, de Ménélas. Et c'est donc parce que Aphrodite a donné un charme particulier à ce jeune Paris, à ce jeune prince troyen, que la belle Hélène, reine grecque, va tomber dans ses bras. Paris va enlever Hélène, il va la ramener à Troie, chez son père, Priam. à côté de son frère Hector et de sa sœur Cassandre. Et donc, il va ramener cette reine grecque chez les Troyens. Et les guerriers grecs, les soldats grecs, les rois grecs vont se liguer autour de ce malheureux cocu qu'est Ménélas pour aller récupérer la belle Hélène à Troie. Et c'est comme ça que la guerre commence. Voyez pourquoi je vous raconte cette histoire, c'est parce que tout commence par Eris. Dans la vie d'Ulysse, tout va commencer par le chaos, par la guerre, par la discorde. Ulysse étant un roi grec parmi d'autres, eh bien Ulysse va être obligé, bien qu'il n'en ait pas du tout envie, il vient d'avoir ce petit garçon, Télémaque, il est très heureux chez lui, à Ithaque, avec sa femme Pénélope, il n'a pas du tout envie de partir faire la guerre, mais il est solidaire des autres rois grecs, et donc il est obligé, donc solidaire de Ménélas et de son frère Agamemnon, eh bien Ulysse est obligé de partir faire la guerre. Cette guerre va durer 10 ans, comme je vous l'ai dit, elle est atroce. Ulysse, ça, je crois que tout le monde c'est ça, plus ou moins, va faire gagner la guerre aux Grecs, à son camp, en inventant, si je puis dire, ce fameux cheval de Troie, cette immense statue en bois qui va entrer dans la ville de Troie avec des soldats grecs qui sont cachés à l'intérieur des flancs du cheval et qui vont la nuit sortir et massacrer les Troyens. Vous voyez que toute l'histoire d'Ulysse commence par 3 chaos. Le chaos de la pomme de discorde, le chaos de la guerre, et le chaos, le 3e chaos, c'est ce massacre des Troyens qui est atroce. On viole les femmes jusque sur le parvis du temple d'Athéna, on les égorge après les avoir violées. Même Athéna, qui a soutenu les Grecs, est tout de même horrifiée par ce que les Grecs appellent l'hubris, par la démesure de ce massacre des Troyens, par cette folie qui s'empare des Grecs qui sortent du cheval de Troie. Et donc, les Grecs vont être punis pour ce massacre. Et on voit encore une fois que toute cette histoire d'Ulysse commence par l'horreur, par le chaos, par la disharmonie, par la discorde, par Eris. Tout est placé dans sa vie sous le signe d'Eris. Et la guerre est terminée. Ulysse n'a évidemment qu'une idée en tête, c'est de rentrer chez lui, de rentrer à Ithaque, de retrouver sa femme, de retrouver son fils, de retrouver son palais. Et le voyage d'Ulysse, la guerre a duré 10 ans, va lui aussi durer 10 ans. Pendant 10 ans, Ulysse va être confronté à des obstacles, à des embûches terribles parfois, alors qu'il veut rentrer chez lui. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a eu ce massacre des Troyens qui est excessif, qui pêche par hubris, par démesure, et que les Grecs sont punis par les dieux, mais aussi parce que Ulysse a commis l'erreur, peut-être même la faute, mais enfin, il avait des bonnes raisons de le faire, de crever l'œil d'un cyclope au cours de son voyage de retour, un cyclope qui s'appelle Polyphème, qui est d'ailleurs un type très antipathique, qui bouffe les marins d'Ulysse vivants. Tout ça est très désagréable, donc on comprend qu'Ulysse se soit débarrassé de lui. Mais enfin, pas de chance pour Ulysse. Polyphème, le cyclope auquel il a crevé l'œil unique, eh bien, Polyphème est un des nombreux fils de Poséidon. Poséidon, c'est le dieu de la mer, c'est un dieu terrible qui n'est pas très sympathique lui non plus. Et donc, c'est la règle en Grèce, quand on a crevé l'œil, quand on a fait du mal à votre fils, eh bien, on doit le venger. Et donc, pour venger son fils Polyphème, on peut dire que Poséidon va littéralement pourrir la vie d'Ulysse. Il va l'empêcher de rentrer chez lui. Et que fait-il pour empêcher Ulysse de rentrer chez lui ? C'est la punition d'Ulysse. Eh bien, il va semer sur le parcours d'Ulysse de Troie vers Ithaque, de l'exil vers le chez-soi, donc toujours de la guerre et de la haine vers l'amour et la paix, eh bien, il va semer des embûches. Et si jamais vous avez la curiosité de lire ou de relire l'Odyssée, vous verrez que ces embûches que Poséidon sème sur le chemin d'Ulysse vers Ithaque, eh bien, sont des embûches très particulières. Chaque fois, elles sont liées à la grande figure de l'oubli. Il s'agit de faire oublier à Ulysse le sens de son voyage, c'est-à-dire le sens de sa vie, qui est la quête de la vie bonne, de la vie harmonieuse. Eh bien, il s'agit de lui faire oublier ce qu'il est en train de chercher. Ce serait la plus grande punition, parce que s'il oublie sa quête de la vie bonne, évidemment, il ne la trouvera jamais. Et quand vous regardez donc ces obstacles, ils sont tous liés à la figure de l'oubli. Les sirènes, elles font perdre la tête, elles font perdre la mémoire. Les petits grains de lotus que les marins d'Ulysse dévorent sur une île où ils se sont arrêtés pour faire eau, reprendre des forces et reprendre des vives, eh bien ces petits grains de lotus, ces fruits merveilleux, rendent amnésiques, ils font perdre totalement les mémoires. Il y a encore le chant de la magicienne, Circé par exemple, qui fait perdre la mémoire. Il y a aussi tous ces sommeils qui s'emparent d'Ulysse au pire moment. moment, quand il voit la côte d'Ithaque, il est presque arrivé chez lui, puis il s'endort bêtement. Il est saisi par le sommeil, il oublie encore le sens de sa vie, le sens de son voyage, et puis le vent le repousse au cœur de l'océan et il est à nouveau perdu. Chaque fois, on a affaire à une figure de l'oubli. Et parmi toutes ces figures de l'oubli, eh bien, il y a une grande figure de l'oubli qui va vous faire comprendre exactement le partage entre une réponse religieuse à la question de la vie bonne pour les mortels et une réponse philosophique, laïque, à la question de la vie bonne pour les mortels, c'est-à-dire à la question du sens de la vie. Et vous allez voir là le partage des eaux, si je puis dire, entre religion et philosophie. Cette figure de l'oubli, elle porte un très joli nom, elle est d'ailleurs ravissante, elle s'appelle Calypso. Calypso en grec, ça vient du verbe kaluptein qui veut dire cacher, garder. Dès que Calypso, qui est donc une divinité secondaire, c'est une nymphe, mais enfin, comme toutes les divinités grecques, elle est à la fois immortelle et ravissante. Calypso, dès qu'elle voit Ulysse, elle tombe folle amoureuse de lui, elle tombe raide dingue d'Ulysse, et du coup, elle décide de le garder, de le cacher sur son île. Homère prend soin de dire « Calypso, amoureuse d'Ulysse, faisait tout pour lui faire oublier Ithaque et Pénélope. » C'est toujours la figure de l'oubli qui revient. Et Calypso, donc ravissante, tombe amoureuse d'Ulysse. Homère prend soin de décrire cette Calypso non seulement comme une femme ravissante, mais ce qu'on appellerait aujourd'hui un canon atomique, c'est une bombe sexuelle. Elle n'a qu'une envie, c'est de coucher avec Ulysse. Elle est folle amoureuse de lui. Et en plus, Homère prend soin, là aussi c'est très important, de décrire l'île de Calypso. Alors aujourd'hui, on essaye toujours de la situer, par exemple à Gozo, dans l'île de Malte. En tout cas, c'est une île ravissante. Imaginez une île grecque sublime comme Patmos ou je ne sais quelle île grecque. Il y a des rivières d'eau fraîche, il y a des forêts, il y a des cochons gras, des langoustes, des petits agneaux. Tout ça est sublime. Autour des amoureux qui passent leur temps à faire l'amour ensemble, il y a des nymphettes qui s'occupent de leur rendre la vie douce et agréable. Enfin, tout ça est fait exprès pour ressembler à un paradis terrestre absolument divin, si je puis dire, et Ulysse a tout pour être heureux, mais chaque soir, Ulysse va s'asseoir sur un rocher, il regarde la mer, il n'a pas, malgré tous les bienfaits que lui prodigue Calypso, il n'a pas oublié le sens de sa vie, il n'a pas oublié le sens de son voyage, qui est de retrouver l'harmonie perdue, et par conséquent, chaque soir, il s'assied sur un rocher, il regarde la direction d'Ithaque, il regarde la mer, et il pleure toutes les larmes de son corps, jusqu'à ce qu'un jour, Athéna l'entende, et elle trouve que la punition a suffisamment duré. Et elle demande à son père, à Zeus, d'envoyer son fidèle messager, Hermès, avec ses petites ailes aux pieds. Hermès, c'est Mercure, c'est le messager de Dieu. Eh bien, ça donnera l'herméneutique, la science de l'interprétation. Il interprète les messages des dieux. Enfin, il y a mille choses derrière. Mais en tout cas, Athéna demande à Zeus d'arrêter la punition d'Ulysse et de le laisser rentrer chez lui. Alors Zeus, comme toujours, obéit à sa fille et il demande à Hermès d'aller dire à Calypso que la punition d'Ulysse a suffisamment duré et qu'elle doit le laisser partir. Lorsque Hermès délivre le message de Zeus à Calypso, Calypso est à la fois furieuse, elle est furieuse contre les dieux, elle pousse des cris, elle hurle « Dieu, vous voulez toujours empêcher les amours que nous avons avec les mortels, et qui sont pourtant les amours les plus divins qui soient, paradoxalement, parce que les dieux grecs aiment toujours les mortels, parce que les mortels sont fragiles, et ils aiment cette fragilité du temps qui passe, mais je laisse ça de côté. Mais surtout, elle est désespérée, parce qu'elle est toujours folle amoureuse d'Ulysse, et elle veut garder son amant avec elle. » Et c'est pas pour rien que toute cette histoire commence par Thétis et Pélée, aussi par une histoire d'une divinité qui se marie avec un mortel. On retrouve toujours cette fragilité du rapport entre les immortels et les mortels. Mais je laisse ça de côté, ce serait trop long à développer. En tout cas, Calypso va inventer un stratagème, elle va faire à Ulysse une proposition très malhonnête pour essayer de le garder, Calyptein toujours, le garder avec elle. Et elle lui dit « Voilà, Ulysse, si tu restes avec moi malgré l'ordre de Zeus, eh bien je t'offrirai ce qu'aucun mortel n'a jamais eu, je te donnerai l'immortalité. » En grec, ça s'appelle l'apothéose. Apothéose, en grec, ça veut dire simplement la transformation en Dieu. Eh bien, je te donnerai l'apothéose. Tu deviendras un Dieu, tu deviendras un immortel. Et puis, elle ajoute une chose, et la mythologie grecque est assez amusante. Elle ajoute une chose, c'est qu'elle dit « Et je te donnerai en plus de l'immortalité la jeunesse éternelle, car elle pense à un précédent fâcheux. » une collègue à elle, si je puis dire, qui s'appelait Aurore. Aurore, c'est la fameuse Aurore aux doigts de rose. C'est la divinité du matin. Dans la mythologie grecque, on l'appelle donc Aurore aux doigts de rose. Imaginez les îles grecques le matin avec ses couleurs du ciel qui sont ravissantes. Aurore, comme Calypso, comme Thétis, était tombée amoureuse d'un mortel qui s'appelait Titon. Et elle avait, elle aussi, demandé l'immortalité pour son homme, parce qu'elle était amoureuse. Mais, pas de chance, elle avait oublié d'ajouter à l'immortalité la jeunesse. Et alors, le malheureux Titon, auquel elle a donné l'immortalité, mais pas la jeunesse, eh bien, au bout d'un temps qui, pour nous, les mortels, paraît très long, mais pour les dieux, paraît très court, eh bien, il se ratatine dans un coin du palais. Il est, évidemment, un vieillard qui n'en finit pas de vieillir. Il devient intégralement impropre à la consommation, si je puis dire. Et donc, la malheureuse Aurore ne sait pas comment s'en débarrasser, puisqu'elle ne peut pas le tuer. Elle lui a donné l'immortalité. Mais en même temps, il est totalement inutilisable pour elle, elle a fini d'être amoureuse et donc elle s'en débarrasse en le transformant en cigale. Alors la petite Calypso, elle dit à Ulysse, je ne commettrai pas l'erreur d'Aurore, je te donnerai en plus de l'immortalité, bien évidemment la jeunesse. Alors mettez-vous à la place d'Ulysse, on lui propose alors qu'il est mortel l'immortalité, on lui propose la jeunesse et la beauté éternelle, il est là avec une femme absolument sublime qui est folle amoureuse de lui, il est dans un paradis terrestre inimaginable. Et malgré tout, et c'est ça la naissance de la philosophie, c'est là le partage des eaux entre spiritualité laïque et spiritualité religieuse, entre définition philosophique de la vie bonne et définition religieuse de la vie bonne, parce que voyez bien que la promesse de Calypso est une promesse religieuse, c'est une promesse divine, c'est une apothéose, c'est une transformation de l'homme en Dieu, c'est une promesse chrétienne avant la lettre, si je puis dire. Eh bien, Ulysse va refuser l'offre de Calypso. Et ce refus d'Ulysse, c'est la naissance de la philosophie, parce que Ulysse pense au fond la chose suivante, c'est qu'une vie de mortel réussie, une vie bonne de mortel, est préférable à une vie d'immortel ratée. Et par conséquent, il a cette conviction proprement philosophique et non pas religieuse, que même avec la mort, même en acceptant la mort, on peut trouver la vie bonne, on peut continuer à chercher la vie bonne. Et c'est exactement la tâche de la philosophie qui se met en place. Toutes les grandes philosophies, sans aucune exception, c'est évident chez Spinoza, mais c'est évident chez Nietzsche avec la doctrine de l'éternel retour, ou même chez Heidegger avec la doctrine de la sérénité, Gelassenheit en allemand, eh bien, toutes les grandes philosophies vont nous promettre qu'on peut trouver la vie bonne sans passer par la foi, sans passer par l'immortalité, la promesse d'immortalité, sans passer par les dieux ou sans passer par un dieu. Et donc là, on voit Ulysse qui refuse l'offre de Calypso, qui refuse l'offre religieuse et qui se dit que malgré la mort, on peut trouver la vie bonne. Et quand on regarde maintenant cette histoire et qu'on y réfléchit, qu'on essaye par la réflexion d'abstraire en quelque sorte de cette histoire les caractéristiques de la vie bonne qui sont cachées en elle, eh bien on va trouver, je vous disais en commençant cette émission, qu'on va trouver dans Homère une définition très concrète, très précise de la vie bonne. Eh bien on va trouver en effet dans le refus d'Ulysse face à la promesse de Calypso, on va trouver une définition implicite de la vie bonne pour les mortels, donc du sens de la vie, puisque en tout cas dans la vie, puisque c'est bien la quête du voyage d'Ulysse. On va trouver une définition de la vie bonne qui va passer par trois grandes caractéristiques. Et ces trois grandes caractéristiques, on va les retrouver constamment dans la philosophie grecque, dont Jean-Pierre Vernant, d'ailleurs, avait montré de façon tout à fait géniale, je trouve, qu'elle était très largement, cette philosophie grecque, une rationalisation, une présentation conceptuelle, rationnelle, du message philosophique déjà contenu dans les grands mythes grecs, et en particulier dans l'histoire d'Ulysse. Eh bien, on va voir en effet, par exemple, dans la grande philosophie stoïcienne, mais aussi chez Platon et chez Aristote, alors il y aura évidemment d'autres composantes dans la philosophie grecque, il y aura même d'ailleurs des composantes hostiles à ce message d'Homère, par exemple chez les atomistes ou chez les épicuriens, mais je ne vais pas rentrer là dans les détails. En tout cas, ce qu'on va voir, par exemple, chez les stoïciens, c'est une reprise, une explicitation conceptuelle, rationnelle, de cette définition de la vie bonne qui apparaît en filigrane dans l'histoire d'Ulysse, donc dans une épopée littéraire romanesque, on pourrait presque dire aujourd'hui, non philosophique au sens technique du terme, mais néanmoins profondément philosophique dans son message. Quelles sont ces trois caractéristiques de la vie bonne ? Première grande définition de la vie bonne dans l'histoire de la pensée occidentale. Eh bien, il y en a en effet trois, je les indique très rapidement, mais elles sont évidentes si on a suivi l'histoire. Première définition de la vie bonne, première définition donc de la sagesse. Philosophia en grec, c'est la quête de la sagesse. La sagesse, c'est la condition de la vie bonne. Le sage, c'est celui qui parvient à la vie bonne. C'est la même chose. Eh bien, première définition de la sagesse ou première définition du sage, le sage, c'est celui qui a vaincu les peurs. Vaincre les peurs, voilà la première tâche du sage, la première tâche du philosophe en tant qu'il est celui qui est en quête de la sagesse. Le sage est celui qui vit la sagesse. Le sage, c'est Socrate, c'est Jésus, c'est Bouddha. Le philosophe, c'est Platon, c'est celui qui écrit sur la chose, c'est celui qui cherche la sagesse. C'est pas la même chose. Mais en tout cas, première condition d'accès à la sagesse, première condition d'accès à la sérénité, première condition d'accès à la vie bonne, vaincre les peurs. Vaincre les peurs, on voit qu'en refusant l'offre d'immortalité, eh bien, Ulysse, implicitement, laisse entendre qu'il a vaincu la peur de la mort. Il y a trois peurs qui pèsent sur nos existences, qui les coincent, j'ai envie de dire. Trois peurs qui coincent nos existences. Il y a les peurs sociales, les timidités. Il y a les peurs que les psychanalystes appellent les phobies. La peur des petites algues au fond de l'eau, la peur du noir, la peur de tel ou tel insecte. La claustrophobie est enfermée dans un espace clos. Et voyez bien que quand... Et puis il y a la peur de la mort. Et voyez bien que quand l'angoisse nous poisse, si je puis dire, quand elle nous coince, nous devenons le contraire du sage, nous devenons à la fois égocentriques, et stupide. On peut avoir peur d'une petite souris. La souris tue très peu chaque année. On peut avoir peur d'un petit insecte, d'un petit crapaud. Le noir aussi, c'est pas mortel. Être enfermé dans un ascenseur qui tombe en panne, c'est pas la mort. Mais on peut avoir peur de manière panique, de manière folle, de manière angoissée. Et lorsqu'on est saisi par l'angoisse, on est le contraire du sage. Encore une fois, on perd à la fois la liberté de penser et l'intelligence, mais on perd aussi l'ouverture aux autres. On est incapable de penser intelligemment et incapable d'aimer, justement. Et donc, le sage, c'est celui qui, ayant vaincu les peurs, autant qu'il est possible, jamais entièrement bien sûr, mais autant qu'il est possible, le sage ayant vaincu les peurs, eh bien il est celui qui à la fois peut penser librement et qui peut s'ouvrir aux autres, qui peut à la fois aimer et penser. Voilà la première caractéristique du sage, la première caractéristique de l'accès à la vie bonne. Et puis la deuxième caractéristique, et là elle est vraiment très claire, dans l'histoire d'Ulysse, elle est encore plus profonde que la première, encore que la première est très profonde aussi. Eh bien, la deuxième caractéristique, c'est que les Grecs pensaient, ce sera développé notamment par les Stoïciens, mais aussi d'ailleurs étrangement par les Épicuriens, les Grecs pensaient que deux maux, M-A-U-X, deux fléaux, deux fardeaux pèsent sur nos vies, le passé et le futur. Le passé nous tire en arrière par un sentiment très puissant, la nostalgie. Quand il a été heureux, mais quand il a été malheureux, il nous tire aussi en arrière par des passions très puissantes, ce que Spinoza appellera joliment les passions tristes, les regrets, les remords, les culpabilités, les hontes qui vous réveillent la nuit en sueur. Eh bien, qu'il ait été heureux ou qu'il ait été malheureux, le passé nous tire en arrière. Et alors, on se précipite dans le mirage du futur. Et on espère, pour les Grecs, l'espérance est un fléau, on espère que ça ira mieux après, quand on aura changé de ce que vous voulez, de chaussures, de coiffures, de voitures, de mari, de femme, de maison, de métier, ça ira mieux après. Et les Grecs pensaient, c'est ce que dit par exemple Sénèque dans les lettres à Lucilius, qu'on nous faisait traduire en latin quand nous étions petits au lycée, pour ceux qui ont fait du latin, eh bien Sénèque disait joliment, à force de vivre dans le passé, à force de vivre dans le futur, nous manquons de vivre, nous n'habitons jamais le présent. Or, le présent est la seule dimension réelle du temps. Le passé et le futur sont des néants. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore. On entend les ne pas ou les ne plus. Donc, le passé et le futur sont des dimensions non existantes du temps. Et nous y sommes tout le temps. Jamais nous n'habitons le présent. Jamais de carpe diem, jamais de saisir l'instant. Jamais d'amor fati, comme dira Nietzsche dans le même sens. L'amor fati, c'est l'amour de ce qui est là. C'est la réconciliation avec le présent. Mon ami André Comte-Sponville a formulé ce message d'Ulysse, ce message d'Homère, ce message stoïcien d'une façon très belle. Et il dit, le sage grec, mais ça vaut d'ailleurs aussi pour les bouddhistes, on retrouvera tout à fait la même idée dans le bouddhisme, le sage est celui qui parvient à regretter un peu moins, à espérer un peu moins, à aimer un peu plus. Amor fati, amour de ce qui est là. Le sage, c'est celui qui est capable d'habiter le présent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas historien, ça ne veut pas dire qu'il se moque du passé, ce serait une preuve de bêtise, ou qu'il se moque du futur, ce serait aussi une preuve de bêtise et d'un manque de sagesse. Mais ça veut dire que quand il pense au passé ou au futur, c'est toujours pour habiter le présent, pour dynamiser le présent, si je puis dire. Et puis là, troisième caractéristique de cette vie bonne, donc, c'est d'abord vaincre les peurs, c'est ensuite habiter le présent. Troisième caractéristique, les Grecs pensaient, et c'est très clair dans la vie d'Ulysse, dans le message d'Homère, mais ce sera encore plus clair chez les stoïciens, mais aussi chez Platon et Aristote, eh bien les Grecs pensaient que l'univers, ce qu'ils appelaient le cosmos, l'ordre cosmique, est semblable à un organisme vivant, c'est-à-dire que ça n'est pas un chaos. Cosmos, c'est un ordre harmonieux, juste, beau et bon, à l'image de ce que voit un biologiste quand il ouvre le ventre d'un lapin ou d'une souris, eh bien il voit un système merveilleusement mieux fait que toutes les machines humaines. Le cœur est à sa place, les poumons sont à leur place, la rate est à sa place, les yeux sont merveilleusement faits pour voir. Il voit un ordre harmonieux où, encore une fois, chaque organe est merveilleusement bien fait en lui-même, mais aussi merveilleusement bien placé. Et donc, les Grecs pensaient que l'univers tout entier est à l'image d'un organisme vivant. C'est ce qu'on a appelé aussi l'animisme. Il y a une âme du monde. Le monde est un gros animal, c'est un gros être vivant. Et donc, la catastrophe, catastrophée, c'est quand on a perdu ce qu'Aristote appellera son lieu naturel dans l'univers. Voyez, la catastrophe pour Ulysse, c'est l'exil. La catastrophe, c'est d'avoir perdu son lieu naturel dans l'ordre cosmique, qui est sa place dans le monde à Ithaque, dans son palais et dans les bras de sa femme, dans l'harmonie du monde. Eh bien, Ulysse, il est au fond comme ces petits chats ou ces petits chiens qui sont perdus sur l'autoroute, on nous raconte ça chaque été, et qui, quelquefois, vont parcourir des centaines de kilomètres pour retrouver leur lieu naturel, retrouver leur habitat, retrouver leur maison. Eh bien, Ulysse, évidemment, la comparaison est un peu triviale, mais elle est parlante. Ulysse, il est celui qui a été déplacé de son lieu. Quel rapport avec la vie bonne ? Retrouver sa place dans l'ordre cosmique, retrouver sa place dans l'harmonie du monde, retrouver l'harmonie avec l'harmonie du monde, l'accord avec l'accord du monde. Eh bien, ce message-là, c'est un message de salut. Pourquoi ? Pour le dire très vite, les Grecs pensaient que le monde est éternel, qu'une fois créé et maintenu dans l'existence par Zeus, après la guerre des dieux, lorsque Zeus a gagné la guerre contre les premiers dieux, contre les titans, qui sont des dieux du chaos, et qu'il a installé l'ordre cosmique quand il a partagé le monde en différents secteurs, qu'il a attribué aux différents dieux, à Poséidon la mer, à Tartare le sous-sol, à Pontos les fleuves, etc., à Uranos le ciel, à Gaïa la terre. Eh bien, une fois qu'il a créé le cosmos, qu'il a garanti l'ordre du monde, qu'il a garanti la paix et l'harmonie du monde, eh bien, le cosmos est éternel. Et donc, lorsqu'on s'ajuste à sa juste place dans l'ordre du monde, la justice pour les Grecs, c'est ça, c'est être ajusté à sa place dans l'ordre du monde. C'est le contraire de l'hubris, la démesure, où on n'est pas à sa place. Eh bien, lorsqu'on a retrouvé sa place dans l'ordre du monde, lorsqu'on est à sa place comme enfin Ulysse à Ithaque, alors on comprend soi-même qu'on est un fragment d'éternité. Vous voyez, c'est une espèce de mysticisme cosmique, qu'on est soi-même un petit fragment de ce cosmos éternel et que du coup, la mort n'est rien pour nous, ou plutôt qu'elle n'est qu'un passage d'un état à un autre. Il y a là quelque chose comme une dimension de salut éternel qui, malgré tout, pas d'immortalité, mais d'éternité. On voit bien qu'Ulysse a refusé l'immortalité. Mais en revanche, quand il est à Ithaque, il comprend qu'il est un fragment d'éternité, qu'il est un atome, en quelque sorte, du cosmos, et que, du coup, la mort des humains n'est qu'un passage, encore une fois, mais pas un néant définitif, en quelque sorte. Trois critères, vaincre les peurs, habiter le présent, être à sa place. Tout le droit romain, hein, mon vieil ami Michel Villet, grand juriste, avait expliqué ça très bien, toute la formule du droit romain, remettre chacun à sa place et rendre à chacun le sien, eh bien, c'est une formule qui vient de cette cosmologie grecque, de cette vision de l'ordre cosmique. Alors, voyez, la vie bonne, pour les Grecs, elle se définit non pas par rapport aux dieux, par rapport à une religion, mais de manière philosophique, laïque, rationnelle, comme une quête de sa juste place dans le monde. Eh bien, entre les Grecs et nous, entre Ulysse et nous, il y aura trois autres grandes réponses apportées à la question de la vie bonne. Donc la dernière, ce sera la cinquième, c'est la réponse par l'amour, et je la raconterai la prochaine fois, et puis après on développera ses conséquences, mais j'indique quand même très brièvement, simplement pour que vous ayez une idée de cette histoire magnifique qu'est l'histoire de la pensée, et pas simplement occidentale. J'évoquais le bouddhisme tout à l'heure, j'aurais pu en parler très longuement, c'est évidemment une vision du monde passionnante, et elle aussi philosophique. Eh bien, il y aura, entre Ulysse et nous, entre la réponse cosmologique et la réponse par l'amour, entre la sagesse du cosmos et la sagesse de l'amour, il y aura trois grandes réponses. Les réponses religieuses, justement, notamment la réponse chrétienne, avec ce fameux épisode de la mort de Lazare dans l'évangile de Jean. La mort de Lazare, la résurrection de Lazare. Souvenez-vous que dans cet épisode, le Christ perd son ami, il apprend que son ami Lazare est mort. Le Christ pleure d'ailleurs, ce qui veut dire qu'il est aussi un être humain, il est l'homme-dieu, il n'est pas simplement un dieu. Il éprouve la mort comme une tristesse, comme une perte, mais il sait qu'il va pouvoir rendre la vie à Lazare. Dans le texte de l'Évangile, c'est assez cru. Il attend que le corps de Lazare soit pourri pour qu'il sente mauvais, dit le texte de l'Évangile de Jean, que tout le monde voit bien que le corps de Lazare était putride, qu'il était corrompu, qu'il était pourri et donc qu'il sentait mauvais, que tout le monde comprenne bien que Lazare était mort, pour pouvoir faire passer le message de la bonne nouvelle, évangile, ça veut dire étymologiquement la bonne nouvelle, ce que saint Paul va essayer de répandre tout autour de la Méditerranée auprès des Juifs et des Grecs qui sont très sceptiques face à cette bonne nouvelle de la résurrection des corps. Eh bien, le message du Christ, c'est que l'amour est plus fort que la mort, que grâce à l'amour, on peut revivre et que nous allons retrouver après la mort terrestre, si je puis dire, ceux que nous avons aimés par-delà justement cette pseudo-fin, cette fausse fin qu'est la mort biologique, avec une question qui va d'ailleurs passionner certains théologiens au Moyen-Âge. On va retrouver ce qu'on a aimé, mais avec quelle tête et à quel âge ? À 80 ans, à 2 ans. Réponse chrétienne, c'est la fameuse doctrine chrétienne du corps glorieux. Nous allons retrouver ceux que nous avons aimés avec le visage de l'amour, l'œil qu'on a aimé, le son de la voix qu'on a aimé, le regard qu'on a aimé. Le corps de l'amour, si je puis dire. Corps et âme, ce n'est pas simplement l'âme, c'est le corps. Résurrection des corps, c'est pour ça, c'est très important que ce corps de Lazare soit pourri, qu'il sente mauvais, pour qu'on comprenne bien que la résurrection, c'est la résurrection corps et âme. Et donc, si nous obéissons à Dieu, si nous aimons en Dieu, comme dira saint Augustin, c'est la doctrine de l'amour en Dieu, eh bien, nous sommes sauvés. Doctrine du salut par Dieu, par la foi et par l'amour. Il y aura une deuxième grande réponse entre les Grecs et nous, la réponse humaniste, la réponse des premiers humanistes, la réponse aussi des premiers grands républicains. Notre vie est sauvée, nous avons donné du sens à notre vie, diront les grands républicains. C'est toute l'idéologie du progrès à partir des Lumières et même un peu avant et tout au long du XIXe siècle. Les grands républicains, nous diront, les grands humanistes républicains, cet héritage des droits de l'homme aussi, nous diront « votre vie est sauvée ». Vous avez justifié au sens théologique votre vie, vous l'avez rendue juste. Quand vous avez apporté votre contribution à l'histoire de l'humanité, à l'histoire du progrès humain, lorsque, par exemple, comme pasteur et dans l'école de mon enfance, on parlait des savants et bâtisseurs, avec des larmes dans la voix ou des tremblements dans la voix, eh bien, lorsque, comme pasteur, vous découvrez le vaccin, eh bien, vous sauvez des vies humaines, vous apportez quelque chose de formidable à l'histoire du progrès humain, ou comme Jaurès, ou comme d'autres, ou comme Victor Hugo, prenons des secteurs différents, ça peut être la politique, ça peut être la science, ça peut être la littérature, ça peut être la philosophie, ça peut être la musique et les arts. Eh bien, quand vous apportez au progrès humain, à l'histoire, c'est une doctrine historiciste, quelque chose de grandiose, quand vous apportez à l'humanité un véritable progrès, eh bien, vous savez sauver votre vie. Et on a bien là, dans l'humanisme même le plus athée, une religion de salut terrestre, puisqu'on va inscrire dans la pierre, dans les édifices publics, dans les édifices de la res publica, de la République, de cette chose publique qui nous appartient à tous, à cette histoire commune des hommes, eh bien, on va inscrire dans la pierre, c'est une espèce de concurrence avec les religions traditionnelles, une concurrence avec la promesse d'immortalité des religions, et encore une fois, même pour les athées, ça vaudra, on inscrit dans la pierre le nom des savants et bâtisseurs pour les garder en mémoire, en quelque sorte, et pour inscrire leur nom dans l'éternité. Et puis, il y aura une troisième réponse après les réponses religieuses, après les réponses humanistes et progressistes à la question de la vie bonne, à la question de ce qui justifie ou ce qui sauve une vie. On voit bien que ces grandes philosophies, même athées, même laïques, sont des doctrines du salut sans Dieu. Il y aura une troisième grande réponse à partir de Schopenhauer et de Nietzsche, ce que Ricoeur avait appelé les philosophes du soupçon, avec cette idée que notamment Nietzsche développera de façon magnifique, de façon grandiose, cette idée que la vie bonne, ça n'est pas la vie qui trouve sa place comme celle d'Ulysse dans l'ordre cosmique. Nietzsche ne croit pas au cosmos. Ça n'est pas une vie qui obéit aux préceptes divins. Nietzsche annonce la mort de Dieu. Ça n'est pas non plus une vie consacrée au progrès et à l'histoire et aux bienfaits apportés à l'humanité. Nietzsche ne croit pas à l'idée de progrès. Il pense que c'est une illusion métaphysique, une boursouflure métaphysique parmi d'autres. Toutes ces idées relèvent de ce que Nietzsche appelle le nihilisme, c'est-à-dire l'invention de valeurs transcendantes par rapport à la vie terrestre. Et ces valeurs transcendantes, que ce soit le cosmos, que ce soit Dieu, que ce soit l'idée de progrès, aux yeux de Nietzsche, nous n'inventons ces valeurs que pour donner du sens à la vie, que pour nous consoler de la mort, que pour nier la vie. C'est pour ça qu'il appelle ça nihilisme. Au fond, on nie la vie au nom du ciel, on nie la vie l'ici-bas au nom de l'au-delà. Dans Zarathoustra, Nietzsche a cette formule magnifique, il dit « soyez terrestre ». Cessez de vous enfermer dans une espèce de monde céleste, que ce soit le monde cosmique des Grecs, que ce soit le monde divin des chrétiens, que ce soit le monde progressiste, le monde du progrès et de l'histoire des humanistes laïcs. Cessez de vous enfermer dans ces transcendances, dans ces pseudo-valeurs métaphysiques finalement, métaphysiques au-dessus de la Terre. Soyez terrestres, restez sur Terre. Et la vie bonne, eh bien, c'est la vie qui est à la fois désillusionnée, d'où le fait qu'on va passer pour arriver à la liberté qui naît de la déconstruction des illusions. On va passer par ce que Nietzsche appelle la généalogie, c'est-à-dire la déconstruction des illusions de la métaphysique. Et donc la vie bonne, c'est la vie désillusionnée, c'est-à-dire la vie libre et intense, parce que désillusionnée, c'est la vie terrestre qui sait qu'elle est mortelle, qui sait qu'elle est terrestre, mais qui va être à la fois intense et libre, parce qu'elle ne s'enferme plus dans les illusions du ciel, parce qu'elle ne nie plus la terre au nom du ciel, parce qu'elle ne nie plus l'ici-bas au nom de l'au-delà, parce qu'elle ne nie plus le corps et le monde sensible au nom du monde intelligible. Alors je ne développe pas ça, c'est simplement pour vous indiquer que voilà, il y a eu le principe cosmique, il y a eu le principe divin, il y a eu le principe humaniste, il y a eu le principe de la déconstruction qui va animer pratiquement toute la philosophie depuis Schopenhauer jusqu'à Foucault et Derrida, qui sont eux-mêmes d'ailleurs au fond des disciples de Nietzsche et de Heidegger. Et puis je pense qu'aujourd'hui, eh bien, nous entrons dans un nouveau principe de sens, dans une nouvelle époque de la pensée. Et voilà pourquoi je pense que ce nouveau principe de sens, le principe de l'amour, je pense que ce nouveau principe de sens, il appelle une nouvelle approche philosophique, peut-être même une nouvelle philosophie. Je crois que, en tout cas, nous sommes dans une nouvelle époque qui n'est plus l'époque de la déconstruction. Nous sommes sortis, quelle que soit sa grandeur, et je ne suis pas du tout en train de négliger la grandeur de Nietzsche, de Heidegger, ni même d'ailleurs de leurs disciples, mais quelle que soit la grandeur de la déconstruction, la puissance de la déconstruction, nous sommes dans l'après-déconstruction, dans la post-modernité, comme on l'a appelé, si on entend par modernité l'époque de la déconstruction, l'époque des philosophies du soupçon, et nous sommes, au fond, dans une époque de la reconstruction, dans une époque où, en effet, sous l'effet de cette révolution de l'amour, sous l'effet de cette invention de la famille moderne, cette invention du mariage d'amour qui a bouleversé nos existences privées, eh bien, l'amour a cessé d'être une passion, un sentiment parmi d'autres. Il devient un nouveau principe de sens. Et je voudrais vous montrer, dans les prochaines émissions, et je commencerai dès dimanche prochain, eh bien, je voudrais vous montrer comment ce bouleversement de nos vies privées que va introduire la naissance du mariage d'amour en Europe, parce que c'est une histoire qui est d'abord européenne, avant de s'étendre au reste du monde. La naissance donc de ce mariage choisi par amour et pour l'épanouissement de l'amour, notamment de l'amour des enfants, eh bien comment cette révolution qui va bouleverser la vie privée, qui va être notamment à l'origine de l'invention du divorce, qui va être aussi à l'origine d'un amour des enfants qui n'avait probablement jamais existé avant dans l'histoire de l'humanité, eh bien je voudrais vous montrer comment cette révolution de l'amour ne va pas simplement bouleverser nos vies privées, mais elle va bouleverser aussi notre rapport à la métaphysique, notre rapport à la religion et même notre rapport à l'art, à l'éducation et à la politique. Comment cette révolution de la vie privée va avoir un impact considérable dans la sphère publique collective et politique. Voilà ce que je vous montrerai la prochaine fois. Et donc la prochaine fois, dimanche prochain, notre prochaine émission, elle sera consacrée précisément à cette histoire de l'invention du mariage d'amour en Europe et donc à la naissance de la famille moderne, à la naissance de l'amour comme nouveau principe de sens après les quatre que je viens d'évoquer aujourd'hui.